La Sultane amoureuse par Gustave Gaillard. C'était au temps où, dans le voluptueux Orient, les femmes restaient rigoureusement voilées et vivaient claustrées au fond des harems où les gardait la folie jalouse de leur seigneur et maître. Plaisante folie, en vérité, et qui étonne un peu de la sagesse arabe. Qui donc peut mettre l'amour en cage, quand les grenadiers sont en fleurs, quand dans l'air alangui traîne le capiteux parfum des roses de l'Iran, et que le chant frissonnant de quelques gousses la vibre, doucement plaintif, dans la nuit tiède? Qui? L'amour vainqueur, l'amour roi se rit des voiles jaloux, des grilles dorées, des harems et des hauts murs gardés par de terribles eunuques armés. En ce temps-là, une nuit, à Alexandrie, hors des murs de la ville, un jeune musulman était assis sur la grève tout argentée de lune et contemplait songeusement le flot. Il se nommait Amant, ce qui pourrait sembler à notre oreille occidentale un nom prédestiné pour gagner l'intérêt des femmes. Il était beau, ce qui est une prédestination plus sérieuse encore. Il était jeune, avons-nous dit, à peine âgé de 20 ans. Enfin, il était bien tourné et doué de certains avantages de l'esprit. Malgré tous ces avantages dont l'avait généreusement gratifié la nature, Amant, que j'appellerai désormais Aman, était ce soir-là profondément triste. Le malheur venait de le frapper durement. Son père, un riche marchand du Caire, avait été brusquement ruiné par la perte d'une forte caravane enlevée par des pillards bédouins et celle d'un vaisseau chargé d'une riche cargaison qui avait péri corps et biens dans une tempête. Toute sa fortune, et même au-delà, avait été engloutie dans ces deux désastres, et ses créanciers avaient fait saisir et vendre son bien. Il s'était pendu de désespoir, ne pouvant survivre à sa fortune, laissant seul au monde son fils Aman, dénué de toute ressource. Aman, après avoir pieusement enterré son père, avait quitté la maison paternelle qui ne lui appartenait plus. Il était parti avec les seuls vêtements qu'il avait sur lui, une dizaine de dinars d'or, qui étaient dans sa ceinture, tout ce qu'il avait pu sauver de ses biens. Résolu à s'expatrier pour aller chercher fortune en d'autres contrées, après avoir hésité entre divers projets d'avenir, il avait décidé d'aller rejoindre un frère de son père qui était établi à Bagdad. Cet oncle, qui était devenu, dit-on, un des plus importants marchands de là-bas, pourrait l'aider à refaire sa vie. Aman était donc venu à Alexandrie, ayant appris qu'une caravane devait partir pour Bagdad. Il devait se joindre au chamelier qui allait se mettre en route dès le lendemain au lever du jour pour la prestigieuse cité des califes. C'est à cet avenir incertain et à ces pays inconnus vers lesquels il allait chercher son destin que cette nuit-là, veille de son départ, Aman, assis sur la grève déserte, songeait en contemplant le flot. D'entre les rochers, il vit à une vingtaine de pas de lui une forme surgir. C'était une femme voilée. Ce devait être une vieille, sans doute, en juger à son pas lourd et légèrement claudiquant. Elle venait dans sa direction, regagnant le faubourg de la ville. En passant devant Aman, elle le salua par le prophète. Aman lui rendit civilement son salut. « Où vas-tu donc, mère, à cette heure si tardive ? » s'enquit-il, étonné. La vieille s'arrêta près de lui. « Tu le vois, mon fils ? » dit-elle d'une voix cassée et chevrotante, en désignant un panier d'osier qu'elle portait au bras. « Je viens d'aller chercher, faute d'avoir trouvé ce soir des poissons d'ananas, des coquilles marines pour nourrir mon mari et des algues pour le soigner. Autrefois, c'est lui qui me nourrissait. Maintenant, atteint par la vieillesse et la maladie, il ne peut quitter son grabat. Nos voisins, aussi pauvres que nous, ne peuvent guère nous venir en aide. Alors, tant que je peux me servir de mes vieux membres, c'est moi qui vais chercher des poissons, des coquillages ou des baies, ainsi que des algues salutaires, n'ayant pas les moyens de lui procurer des remèdes. Tu n'as donc, pauvre femme, personne autour de toi pour vous aider? J'avais un fils, un brave marin, comme son père. Allah me l'a pris. Que sa volonté soit faite. Il a péri dans une tempête. Aman considérait avec apitoiement cette pauvre vieille courbée, vivante image du dénuement et de l'humble résignation. « Tiens, ma mère, » dit-il en lui donnant un dîner, « accepte ceci pour acheter des remèdes à ton mari. » La vieille regarda dans sa main la pièce d'or, puis releva les yeux vers le jeune homme et le regarda quelques secondes en silence. « Au nom du miséricordieux, » lui dit-elle, « que ta charité et ton bon cœur, mon fils, soient récompensés. Pour te remercier de ton don généreux, accepte d'une pauvre vieille reconnaissante ceci, qui te portera bonheur dans la fortune et l'amour, et te préservera du mauvais destin. » Ce disant, elle fouilla dans son panier, parmi ses algues, et en sortit un petit objet rosâtre qu'elle plaça dans la main d'Aman, puis elle le salua et repartit de son pas claudiquant. Aman regarda dans la clarté lunaire la silhouette contrefaite se perdre au loin et disparaître dans les premières ruelles du faubourg, puis considéra ce que cette pauvresse lui avait donné. C'était une petite branche de corail rose. Le présent était modeste, mais assez curieux par sa forme incurvée, qui, avec ses deux extrémités effilées comme deux petites cornes, était celle du croissant. Le corail est, de tradition, comme chacun sait, un porte-bonheur et un préservateur du mauvais destin. Bien que peu superstitieux, Aman le mit dans la poche de sa ceinture avec les 9 dinars qui lui restaient. « Cela te portera bonheur dans la fortune et l'amour, » avait dit la vieille. Aman haussa les épaules et sourit, puis se replongea dans sa songerie, pensant à son prochain exil. La lune était déjà à son zénith, et il partait avec les chameliers au premier rayon du soleil levant. Il songea à regagner la ville pour prendre quelque repos avant de se mettre en route, puis, s'enveloppant dans son écharpe, il s'allongea simplement sur le sable, préférant dormir cette dernière nuit sur le sol natal qu'il allait quitter demain. Après des semaines et des semaines de marche à travers des déserts arides, puis des contrées tout à fait nouvelles, puis d'autres déserts arides, la caravane arriva un matin en vue de la grande ville de Bagdad. On en franchit les portes peu avant le milieu du jour. Aman fut frappé de la splendeur de ses murailles, de ses tours, de ses palais, de ses mosquées, de la richesse de ses boutiques, de l'étendue de ses marchés, de la magnificence de ses sérails roses, de la grâce de ses fontaines de marbre et de l'opulence de ses jardins. Bagdad lui faisait l'effet d'une idéale cité de conte où la douceur de vivre se mêlait au charme des yeux. Il s'informa aussitôt de son oncle, but principal de son long voyage. Cet oncle, qui se nommait Alam Sétif, était, comme nous l'avons dit, un des plus importants marchands de Bagdad, et comme l'avait escompté Aman, devait être fort connu dans la ville. Le premier passant, en effet, auquel il s'adressa, le conduisit vers sa demeure. Cette demeure était d'un aspect cossu, avec sa façade ornée de colonnades et sa porte garnie de clous d'argent et couverte de fines arabesques. Aman, ayant frappé à cette porte, apprit qu'Alam Sétif était momentanément hors de la ville pour ses affaires et ne devait rentrer que vers la fin de la soirée. Mais, ayant décliné sa parenté, l'esclave l'accueillit aussitôt avec déférence et l'introduisit dans la demeure où il lui fit servir une collation de choix. Si, dans une demeure où l'on pénètre pour la première fois, on juge le maître d'après les serviteurs, Aman ne put que supputer que son oncle devait être un homme accueillant et cordial, ouvert aux bons sentiments. Il augura de cet accueil un bon résultat quant aux relations futures qu'il aurait avec cet oncle inconnu. S'étant restauré, Aman, pour remplir sa journée en attendant le retour de son oncle, décida de visiter la ville. Il alla donc promener ses pas au gré du hasard à travers les rues. Bagdad lui fit l'effet d'une ville de merveilles et de rêves, dans laquelle il allait avec délice, entre des sérails superbes et des jardins enchantés qu'il apercevait parfois, par des portes ouvertes, au-delà des arcades et de vastes cours, et qui faisaient songer au paradis d'Allah. Tout respirait la volupté, tout était un charme pour les sens. Parfois, en de luxueux palanquins à porteurs, passaient des femmes voilées, et Aman devinait dans les minces fentes de ses voiles brodées des regards noirs qui se tournaient vers lui. Des femmes ou des filles de vizirs ou de grands officiers sans doute, qui faisaient, escortées de gardiens en riches livrées, leur promenade d'espérale, ou qui allaient faire des emplettes de parfums, d'étoffes ou de joyaux dans les bazars. Dans sa promenade errante, comme il longeait la haute muraille latérale d'un grand palais dont il ne pouvait apercevoir la bâtisse, il trouva soudain devant ses pas une petite porte massive et finement ouvrée, une sorte de poterne basse, qui, fortuitement sans doute, était à demi ouverte en ce moment. Il s'arrêta devant cette porte pour jeter les yeux dans l'intérieur de ses murs. Il vit une cour pavée de fines mosaïques, et au-delà de cette cour, un jardin plus beau encore que tous ceux qu'il avait l'occasion d'apercevoir dans Bagdad. Des arceaux de roses formaient voûte au-dessus d'une allée, au bout de laquelle il distingua une superbe grille dorée. Tandis qu'il regardait avec émerveillement cette féerie de fleurs, il resta soudain saisi, l'être en suspens. Dans ce jardin, un peu plus loin, quelque part, il ne savait où, se faisaient entendre les cordes langoureuses d'une guzla, et peu après chanta une voix de femme, une voix pure, harmonieuse et limpide, qui avait les accents magiques du rossignol, une voix qui ravissait l'oreille, qui chatouillait le cœur. Elle chantait une cantilène d'amour. Aman écoutait avec extase. Ce chant de femme venait à lui à travers le parfum des roses. Il imaginait la chanteuse d'après sa voix. Il l'imaginait idéalement belle. Invinciblement attiré, il franchit malgré lui pour mieux entendre, et aussi pour voir celle qui chantait, le seuil de cette poterne entr'ouverte. La cour était déserte. Il arriva jusqu'à l'allée, sous les arceaux de roses, l'oreille tendue et le cœur frissonnant. Le chant semblait venir de l'autre côté de la grille dorée qu'il apercevait à l'extrémité de cette voûte de fleurs. Le lieu autour de lui était désert, comme la petite cour de mosaïque qu'il venait de franchir. Il s'approcha, hésitant, étouffant le bruit de ses sandales sur les dalles de marbre variées qui pavaient cette allée. Là-bas, au-delà de la grille, il aperçut encore une suite de jardins beaucoup plus beaux encore que celui qu'il venait de traverser, avec des volières garnies d'oiseaux les plus rares, et des ombrages sous lesquels jaillissaient de grands jets d'eau. Des bâtiments magnifiques, avec des balcons ouvrés, entouraient ces jardins. Aman embrassa tout cela d'un regard charmé, qui se fixa soudain à un portique de marbre sous lequel régnait une pénombre bleue. C'est de là que venaient le chant et les accords de la guzla. Il y avait là, assise ou étendue sur des coussins luxueusement brodés, une dizaine de femmes au visage et aux cheveux dévoilés, et trônant au milieu d'elles, sur des coussins plus élevés, étaient assises, les jambes croisées dans ses pantalons de gaze, celles qui chantaient. Elle était plus belle, 100 fois plus belle qu'il ne l'avait imaginée. Il la contemplait avec saisissement. Il croyait voir devant lui une houris céleste descendue du paradis d'Allah. Sa beauté et sa grâce ne semblaient pas celles d'une mortelle. Elles égaraient le cœur et la raison. Aman sentit cette vision entrer à jamais dans ses yeux et dans son âme. Il sentait que dès cet instant, il ne pourrait plus jamais aimer une autre femme après avoir vu celle-ci. Celle qu'il regardait avec une émotion éperdue leva en ce moment, comme attirée par les siens, ses yeux de son côté. Elle eut un léger tressaillement de surprise et son chant, involontairement, s'arrêta sur ses lèvres. Leurs regards venaient de se croiser. La jeune femme détourna presque aussitôt le sien, mais sous le subit abaissement des longs cils, Aman crut voir, l'espace d'une seconde, ses belles prunelles se satiner imperceptiblement d'un sourire ému après avoir saisi l'intense émotion dont il la couvait. Il avait cru lire aussi dans ce bref regard échangé une expression de crainte, qui semblait lui signaler un danger, le danger qu'il devait courir sans doute par sa seule présence en ce lieu. Ce danger, en effet, se précisa presque aussitôt. Les femmes qui étaient autour de la jeune houri et qui écoutaient sa cantilène que l'une d'elles accompagnait sur sa guzla, surprises de son brusque silence saisi et de la fugitive expression de sa physionomie, avaient suivi la direction de son rapide regard et tourné leurs yeux vers la grille. Elles y virent avec un égal saisissement le jeune audacieux, perdu dans une sorte d'extase, comme figé dans un rêve. Avec de légers cris effarouchés, elles se voilèrent tout aussitôt. Une vieille jeta à la hâte un voile sur les cheveux et le visage de la belle chanteuse. Cependant, cet émoi subi parmi les femmes avait attiré instantanément une sorte de géant noir, vêtu de soie rouge, qui, apercevant un jeune étranger derrière cette grille, poussa une sorte de rugissement de colère et s'élança vers lui en dégainant son cimeterre et en lançant des cris d'alarme. À cet appel, des esclaves noirs et des gardes armés couraient déjà dans les galeries latérales qui se trouvaient dans ce second jardin où avait pénétré l'intrus, dirigeant leur course vers la porte de la poterne pour lui couper la retraite. La jeune houri, à travers son voile, regardait Aman, et dans ses yeux passa une angoisse qui fut pour le cœur de celui qu'on traquait comme un baume divin. Il avait eu l'ineffable bonheur de voir les beaux yeux émus de son sort. Entourant de son écharpe le bas de son visage pour dérober ses traits à ceux qui le pourchassaient, il bondit à travers les massifs, gagna la petite cour de mosaïque et atteignit la poterne une ou deux minutes avant qu'y arrivent, retardés par des détours, les esclaves et les gardes. Il se retrouva dans la rue, mais se sentit encore loin d'être sauvé. Fuir était dangereux. C'était éveiller l'attention des passants et faire signaler par eux sa direction aux poursuivants, se faire arrêter peut-être par les gens de police. Aman jeta les yeux autour de lui pour chercher un refuge momentané. Un marchand d'olives passait, nasillant une chanson de vendeur. Son âne, qu'il traînait derrière lui, avait un de ses cacolets vides. À l'insu de l'ânier, le fugitif se faufila prestement dans ce cacolet et s'y accroupit, entassant vivement des sacs vides sur sa tête. Il n'était que temps. Les eunuques et les gardes venaient de faire irruption dans la petite rue. À travers les interstices de la haute d'osier, où ils se trouvaient tassés, Aman voyait leurs faces furieuses se tourner en tous sens et leurs armes trembler dans leurs poings furieux. Son compte eût été bon s'il avait été deviné là. Il ne put que prier du fond de son âme Allah le miséricordieux que ces terribles personnages ne viennent pas fourrer leur nez sous ses sacs dans le fond de ce panier de bas. Le Très-Haut dut entendre sa prière. Après un rapide regard autour d'eux, les hommes, sur l'ordre prompt du grand eunuque, se divisèrent en deux fractions de poursuite qui s'élancèrent vers les deux extrémités de la rue. Aman, sous ses sacs, poussa un soupir de vif soulagement. L'ânier continuait paisiblement son chemin. Le jeune rescapé allait dans le panier, bercé par le pas scandé du bourriquet et précédé par la chanson nasillarde du marchand d'olives. Parfois le marchand s'arrêtait, appelé par-ci par-là par une cliente, qu'il servait en puisant sa marchandise dans l'autre panier. Dans une ruelle, il s'arrêta pour entrer chez un cordonnier. Aman profita de l'instant pour faire émerger avec circonspection sa tête au-dessus des sacs. La ruelle était à peu près déserte. Choisissant un moment propice, il sortit de sa hôte et s'éloigna. En se retrouvant libre de ses mouvements et de ses actes, le premier soin d'Aman fut de se mettre en quête d'un fripier, chez lequel il troqua prudemment sa tunique et son écharpe contre des objets vestimentaires analogues, mais de couleurs et de formes différentes. La dépense au surplus n'avait rien de superflu, ses vêtements ayant été éprouvés par la longue route qu'il venait de faire. Deux pièces d'or suffirent à le transformer pour n'avoir plus à craindre, le cas échéant, l'œil soupçonneux de ceux qui étaient tout à l'heure à ses trousses et qui, loué soit Dieu, ne connaissaient pas ses traits. En ce nouvel équipage, il regagna, plus rassuré, le centre de la ville et se dirigea un peu à l'aventure vers la maison de son oncle, se basant comme point de repère sur les monuments et les palais qu'il avait déjà vus, se livrant au charme de l'heure et de la songerie. Le soir tombait sur Bagdad, un soir splendide, dont les couleurs de pourpre et d'or se muaient peu à peu en un crépuscule tendre qui donnait à la ville des teintes précieuses d'opale, d'améthyste et de corail. Du haut des minarets graciles, descendait le chant des muezzines appelant dans le soir rose les fidèles à la prière, et le parfum des myrtes et des roses flottait dans la douceur musulmane de cette cité de conte oriental. Dans ce soir embaumé, doux comme une caresse de femme, Aman allait, rêvant, le cœur doucement oppressé par l'émotion de sa rencontre. Dans ses teintes de rêve, il revoyait en son frissonnant souvenir la suave vision de la houerie de ce jardin. Ce que ses yeux avaient vu, c'était un coin de paradis dont son âme resterait à jamais éblouie, dont son être grelotterait encore d'extase et d'amour. Non, certes, jamais, il le sentait bien, il ne pourrait aimer une autre femme sur terre, après avoir vu celle-là. Mais la reverrait-il jamais? Il y avait, hélas, peu de chance, disait en lui la voix de la raison, pour que jamais il puisse, autrement qu'en ses rêves, la voir devant ses yeux, s'abreuver de son ineffable regard et entendre encore le son de sa voix. Qui sait, chantait en lui la folle voix de l'amour. Qui pouvait être cette radieuse beauté? Certainement l'épouse ou la fille de quelque grand et puissant personnage de la cité. En juger par la somptuosité de ce simple coin de paradis, le nombre et les riches étoffes de ces femmes qui devaient être des suivants de harem, ces eunuques splendidement vêtus, et ses esclaves et ses gardes qui avaient couru après lui. Et la folle voix de l'amour se faisait en Aman pour laisser parler la voix cruelle de la raison. Oui, certes, il ne la reverrait plus jamais. La lune se levait, épandant son féerique voile d'argent sur les palais de Bagdad, quand Aman, après avoir longtemps erré et rêvé, arriva devant la demeure de son oncle. L'esclave, qui vint lui ouvrir, lui apprit que le seigneur Alam Sétif était de retour et l'attendait avec impatience. Alam Sétif était, comme l'avait pressenti Aman, un homme affable et accueillant. Il reçut son neveu les bras ouverts et le serra longuement contre sa poitrine, ému de retrouver en lui tous les traits de son frère bien-aimé. La triste nouvelle de sa ruine et de sa mort l'affecta profondément, et il remercia tendrement Aman d'avoir songé à lui dans sa détresse et d'être venu à lui. Il n'avait plus d'épouse et n'avait pas d'enfant. Ce neveu, dont il sentit tout de suite les qualités de cœur et d'esprit, c'était un peu comme un fils qu'Allah lui envoyait au seuil de sa vieillesse. Puis, la venue de ce neveu fut fêtée par un festin de choix, où abondaient les mets les plus délicats et où le vin fut versé dans des tasses d'or. Après ce copieux repas, tandis que l'oncle, un peu fatigué par sa journée de voyage, se retirait dans sa chambre, Aman, se sentant la tête un peu lourde, résolut d'aller, avant de se coucher, respirer l'air de la nuit. Bagdad nocturne semblait, sous la prestigieuse lune, une féerique cité d'argent, tout aussi animée qu'en plein jour. Dans les rues blanches erraient des passants. Sur le seuil des portes, des gens assis causaient. Et sur le sommet des maisons, des formes humaines étaient accroupies au bord des terrasses, d'où parfois montait vers les étoiles le chant doux et nostalgique de quelques flûtes ou de quelques guzla. Aman, comme malgré lui, dirigea ses pas vers le point de la ville où lui était advenue cette aventure de la journée. Il voulait revoir ce lieu. Il retrouva, en passant par les mêmes voies, la haute muraille d'enceinte latérale de ce palais qu'il ne connaissait pas et dont on ne pouvait, de côté, voir la bâtisse. Cette bâtisse lui importait moins d'ailleurs que ses jardins. Il longea lentement ce mur, espérant, son cœur frémissant, que peut-être lui parviendrait encore quelques chants harmonieux de la voix si chère ou quelques accords de l'instrument. Mais tout était silencieux. Seul un rossignol chantait dans la nuit. Heureux oiseau qui était l'hôte de ce lieu. Il passa devant la poterne basse. L'épaisse porte massive et finement ouvrée en était fermée. Ce mur élevé et cette porte close semblaient, comme un inexorable symbole, couper la vie en deux entre elle et lui. Comment la revoir jamais? Il eût été fou de l'espérer. Il poursuivit son chemin le long de ce mur. La petite rue qu'il fermait sur tout un côté conduisait sur une place plantée de cèdres où s'élevait une mosquée. Il était passé là, selon toute probabilité, dans la fin de l'après-midi, mais n'avait pu se rendre compte, ayant traversé cette place enfouie dans un panier d'âne. Au pied du mur de cette mosquée, trois hommes étaient assis sur le sol, trois vieillards à longue barbe blanche, qui semblaient sous la lune de vénérables masses de pierre. Ils devisaient, en contemplant, le firmament et en mâchant des olives. Aman s'approcha d'eux et les salua. Ils lui rendirent civilement son salut. « Je suis depuis peu dans Bagdad, » exposa Aman, « et ne connais pas la ville. Quelle est donc, s'il vous plaît de me renseigner, cette grande muraille d'enceinte qui est devant nous ?» Les trois vieux, arrêtant leur mastication, le regardèrent avec quelque surprise. « Mais mon fils, » dit l'un d'eux en hochant son turban et en baissant légèrement la voix en signe de respect et de vénération, « ce sont les derrières du palais de notre calife, chef des croyants et lumière du monde. »« Ah bon? Ah bien? Je vous rends grâce, » exprima Aman en s'éloignant. Il reprit son chemin et regagna à demi étourdi la maison de son oncle. Une fois là, conduit dans sa chambre, il se coucha et resta les yeux ouverts, inerte, écrasé. Ainsi donc, celle dont il avait pu, pendant quelques minutes, contempler la souveraine beauté et qu'il s'était pris à aimer comme un fou, c'était l'épouse du calife. Au grand marché, Alam Sétif avait loué pour son neveu Aman un magasin qu'il avait pourvu des plus luxueuses marchandises. Il avait également loué pour lui, près de ce marché, une belle maison et lui avait donné trois esclaves. Aman était devenu du jour au lendemain un important marchand de Bagdad. De grandes dames venaient s'approvisionner chez lui de parures, d'étoffes de soie, de voiles brodées, d'écharpes d'argent et d'or, de parfums rares et de joyaux de choix. De somptueux palanquins venaient s'arrêter fréquemment devant sa porte, et les épouses de dignitaires et de grands officiers hantaient son magasin. La grâce aimable du jeune et beau marchand et le choix particulier de ses ravissantes marchandises emplissaient sa bourse de dinars d'or et donnaient à sa boutique une renommée qui allait toujours grandissant. Ses belles clientes ne lui ménageaient pas, à travers la discrète fente de leur voile de mousseline, leur plus sympathique regard. Cependant, malgré sa prospérité et les agréments de la vie qui s'offraient à lui, Aman gardait un cœur lourd et une âme en deuil. L'amour tenaillait sa pensée, et le souvenir de la houri entrevue habitait son sommeil et ses veilles. Ce souvenir était resté dans ses chairs comme des échardes cruelles. Pour la revoir, il eût donné avec joie la moitié de son sang. Parfois, abandonnant son égo aux soins d'un esclave, il allait rôder derrière le grand mur du palais, dans le fiévre espoir de l'entendre ou de l'apercevoir encore. La poterne des jardins était toujours close. Les jardins étaient silencieux. Ah, quelle douloureuse chose que le silence et un mur quand on espère si éperdument le son d'une voix adorée et un regard qui vous ouvre le ciel. Au fait, se disait-il mélancoliquement dans les intervalles de raison, n'est-ce pas folie que d'espérer cette voix et ce regard qui ne pouvaient être pour son oreille et ses yeux? Un sort cruel l'avait railleusement conduit durant une minute où jamais son pied n'eût dû se poser, et lui avait montré, pour son éternelle damnation, un radieux visage qu'il n'eût dû jamais voir. Ainsi se morigénait Aman, souffrant en silence, n'ayant jamais parlé à personne, pas même à son oncle, de son aventure et gardant sa douleur muette. Une après-midi, Aman, dans sa boutique peu visitée de clients à cette heure la plus brûlante du jour, se remémorant les récents changements de sa vie depuis son départ du Caire, se prit à songer à cette vieille ramasseuse d'algues qu'il avait rencontrée une nuit sous la lune, sur la grève d'Alexandrie, et qui lui avait fait l'étrange présent de cette petite branche de corail. « Elle te portera bonheur dans la fortune et dans l'amour », lui avait-elle dit de sa voix cassée et chevrotante. Le fait est que ce présent semblait avoir, pour ce qui concernait du moins la fortune, tenu la promesse. Quant à l'amour, c'était, semblait-il, une toute autre histoire. Aman trouvait, il est vrai, dans bien des regards de femmes, à travers main voile de mousseline qui s'entrebâillait à son intention avec une furtive complaisance, de discrètes bontés qui ne demandaient qu'à se manifester. Peut-être était-il à croire que le charme du brin de corail avait dispensé de la sorte ses vertus bienfaisantes, et c'était bien là le malheur. Que peut importer, en effet, ce que laissent lire les yeux des femmes, alors qu'une seule accapare votre être entier, et est l'unique maîtresse des moindres battements de votre cœur? Il avait tiré le brin de corail de la poche de sa ceinture et le considérait en souriant dans le creux de sa main. « Au fait, se disait-il songeusement, en contemplant, mi-sceptique, mi-ému, ce petit croissant rose, au fait, qui sait? Après m'avoir mis sur le chemin de la fortune, il me mettra peut-être un jour sur celui du bonheur. Pourquoi, gentil corail, à qui la nature a donné la forme du signe du prophète, pourquoi ne croirais-je pas en toi? Qui sait? C'est toi, peut-être, qui m'as conduit vers ce merveilleux jardin de paradis, par cette porte, si extraordinairement ouverte en cet instant. Qui sait? C'est toi, peut-être, qui as fait si miraculeusement passer à la seconde voulue un panier vide pour me soustraire au cimetière de cette effroyable nuque et de ses gardes, prêts à faire voler ma tête sur le pavé. Tout cela, ma foi, mérite qu'on y songe, car tout cela est assez merveilleux. Pourquoi, mon petit croissant de corail, ne croirais-je pas en toi? Sous ton signe gentillet, on m'a promis non seulement la fortune, mais encore l'amour. J'ai foi en toi. » À ce moment, un somptueux palanquin à 8 porteurs en livrée de soie blanche, escorté d'un grand eunuque noir, s'arrêta devant sa porte. Il en descendit 2 femmes, qui entrèrent dans son magasin, tandis que le grand diable noir se tenait en faction au seuil de sa porte. Aman salua fort civilement ces 2 visiteuses de haute qualité et leur présenta des fauteuils à coussins persans. Dans leurs voiles brodées de grandes fleurs d'argent, l'une paraissait une personne quelque peu empâtée par l'âge. L'autre avait une tournure jeune, souple et gracieuse. Elle regardait le jeune marchand. Aman ne pouvait voir de sa personne que 2 yeux qui semblaient 2 étoiles noires d'une lumineuse beauté. Le reste de son visage restait invisible, sous la double mousseline qu'épaississait encore les broderies. « Que le sourire le plus doux d'Allah rayonne sur vous, » exprima-t-il en s'inclinant. « Que puis-je faire pour vous plaire ?» La plus âgée des 2 visiteuses jeta, du coin de la fente de son voile, un coup d'œil sur l'eunuque noir qui semblait une statue attentive au seuil du magasin, et demanda à voir des perles. Aman s'inclina de nouveau et présenta à ses clientes, sur un guéridon en bois de rose, une coupe de cristal où scintillait une sélection de perles du plus pur Orient. La plus jeune se borna à plonger dans la coupe sa fine main blanche et à faire couler distraitement entre ses doigts rosés une cascade de grains lumineux, puis demanda des parfums. Le timbre de sa voix fit étrangement tressaillir Aman. Au comble de l'émotion, il présenta des essences de rose, de lys, puis des boîtes d'argent contenant du nard, du benjoin, de l'ambre. La cliente, pour respirer sans doute une boîte qu'il lui présentait d'une main qui se prenait à trembler, abaissa, l'espace d'un instant, son voile au-dessous de son nez, presque au bas de son visage. Aman eut une commotion en entrevoyant ses traits. C'était elle, celle qu'il n'osait espérer revoir jamais, la houerie du jardin. Le visage avait presque aussitôt disparu. Les yeux seuls restaient visibles dans la fente amincie du voile. Ses yeux glissèrent du côté de l'eunuque, puis se posèrent, chatoyant, sur ceux du jeune marchand frappé de vertige. « Je ferai prendre ces trois boîtes d'ambre et cette boîte de nard, » dit-elle en se levant avec sa compagne et en se dirigeant vers la porte que l'eunuque incliné tenait ouverte devant elle. Aman s'aperçut qu'elle avait oublié sur le guéridon son mouchoir. Il le prit pour courir après elle et le lui remettre, mais il s'immobilisa soudain, le cœur grelottant. Il venait de s'apercevoir que dans ce mouchoir abandonné, il y avait une rose. Figé sur place, il regardait s'éloigner le palanquin. L'eunuque avait repris sa place devant les porteurs. Il vit alors un rideau de cette chaise s'entrebâiller, et derrière ce rideau, le regard adoré qui se fixait sur le sien. La litière avait, depuis quelques instants, disparu, qu'Aman la voyait encore devant ses yeux éblouis, se demandant s'il n'était point l'objet du plus prodigieux des rêves. Retrouvant à demi ses sens, il apprenait à regarder tour à tour dans ses mains cette rose et ce mouchoir, respirant avec un indicible enivrement ce double parfum de fleurs et de femmes. Et la caresse de ces deux parfums se confondait en son être pour égarer délicieusement sa raison. Ce qu'il respirait là, c'était de l'amour, c'était du paradis, c'était de la surhumaine extase. Aman passa sa journée dans le plus délicieux des vertiges, ne sachant plus s'il vivait sur terre, ne sachant plus, n'osant pas savoir ce qu'il devait croire, ce qu'il devait espérer, tremblant que tout cela ne soit qu'une simple illusion, que cette rose dans ce mouchoir ne soit simplement que des objets involontairement oubliés. Mais non, il y avait le regard qui donnait à cela une signification céleste. Ce regard qui avait glissé jusqu'à son âme, ce regard qui ne lui permettait pas de douter et qui contenait la plus grisante des promesses. Vers la fin de la journée, un peu avant la tombée de la nuit, son cœur se prit soudain à trembler d'émotion dans sa poitrine violemment oppressée, en voyant entrer seule, dans son magasin, la femme âgée qui était venue tantôt et qu'il reconnut tout de suite à sa silhouette ainsi qu'à son voile brodé de fleurs d'argent. Elle revenait, dit-elle, prendre elle-même les boîtes de parfums qui avaient été choisies par sa maîtresse. Et tandis que le jeune marchand les lui remettait, fortement ému, la vieille, à travers son voile, s'étant assurée d'un coup d'œil circonspect qu'ils étaient tous deux bien seuls en ce moment, se pencha légèrement vers lui et lui glissa à mi-voix. « Quelqu'un désire te voir. »« Hein ?» fit Aman, le cœur frissonnant, mais sans rien laisser paraître de son indicible émotion. « Quelqu'un, qui donc ?» La vieille sourit dans son voile. « Je te loue de ta prudence, qui est un gage de ton habile discrétion. Mais ne perdons pas de précieuses minutes. L'esclave qui m'a accompagné et qui m'attend devant la porte pourrait prendre quelque étonnement d'une trop longue conversation. Tu as reçu une rose dans un mouchoir. Tu sais qu'une fleur ainsi adressée annonce une messagère. Je vois la rose dans ta tunique et tu vois la messagère. » Il écoutait, les yeux mi-clos, le souffle en suspens. « Je vois, » sourit la vieille, en observant sa violente émotion, « que cette messagère ne te laisse pas précisément indifférent. Soit, cette nuit, quand la lune se couchera, derrière le palais, sous les cèdres de la place où est la mosquée, reste là dans l'ombre et garde qu'on te voie. À un certain moment, je passerai devant toi. Pour que tu puisses me reconnaître, j'aurai mon écharpe à la main. Tu me suivras de loin. Je te guiderai vers celle qui t'attend. » Aman crut voir s'ouvrir le ciel devant lui. Dans une magnifique nuit constellée, embaumée, douce comme une voluptueuse caresse, la lune déclinait lentement au-dessus des dômes scintillants des palais de Bagdad. Sur la place, au pied de la mosquée, les trois habituels vieux grignoteurs d'olives avaient depuis longtemps quitté leur cénacle de chaque soir, pour regagner sans doute leur natte de sommeil dans leur demeure. La place était vide. Sous les cèdres, qui allongeaient de plus en plus leur ombre sur les dalles de la place, Aman était immobile, en attente palpitante. Un prodigieux silence l'environnait. troublée seulement de quart d'heure en quart d'heure par le réciproque appel des factionnaires qui montaient leurs gardes au sommet des murs du palais de Khalifa ou par le cri monotone et nasillard de chaque bailleur de nuit qui déambulait dans les rues de la ville. Le cœur gonflé d'amour, Amman ne quittait pas des yeux ce palais où l'attendait le plus éblouissant des bonheurs. De quel côté allait venir la furtive messagère qu'il devait suivre à distance? Les minutes lui paraissaient d'une longueur extravagante, et la paresseuse lune descendait sur l'horizon avec une lenteur inconcevable. Vraiment, il exagérait cette nuit le croissant d'or, en s'attardant ainsi dans le champ des étoiles qu'il semblait quitter à regret. Enfin, il disparut peu à peu, mangé par la ligne de l'horizon. La place de la mosquée s'ensevelit progressivement dans une pénombre où ne subsistait plus comme vague clarté que le discret reflet du firmament. L'ardente attente du jeune amoureux se fit plus émue encore. Dans cette nuit voilée, derrière les hauts murs, dans les jardins du palais, un rossignol chanta, lançant à l'ombre plus discrète un chant plus doux et plus langoureux. Soudain, le cœur d'Aman eut un petit frisson. À l'entrée de la place, venait de se préciser vaguement dans le gris bleu une silhouette mobile. Mais non, ce n'était pas la messagère. Il y avait, avec cette silhouette qui approchait, une lanterne et un bâton. C'était un veilleur de nuit qui faisait sa ronde, annonçant la sixième heure de la nuit de sa voix psalmodiante et appelant monotonement la bénédiction d'Allah sur le sommeil des fidèles. Amman, tapi derrière le tronc d'un cèdre, laissa passer cet importun. Il disparut à l'autre bout de la place, allant traîner ailleurs ses babouches, son chant et sa lanterne. Sur la place vide régna de nouveau le silence où grelottait le frais murmure d'une fontaine. Quelques instants passèrent encore, puis, à l'extrémité de la place, une nouvelle silhouette mobile se dessina qu'Aman observa avec une fébrile attention. Elle était voilée, celle-ci. Elle avait une écharpe à la main. Le cœur d'Aman se prit à battre à coups précipités. C'était bien, cette fois, celle qu'il espérait. La messagère allait, sous la voûte de feuillage des cèdres, longeant avec circonspection la partie la plus sombre de la place. Elle passa devant celui qui attendait et tourna légèrement la tête de son côté, échangeant dans la pénombre un rapide regard avec lui, tout en continuant sa route sans ralentir le pas. Amman lui laissa prendre une certaine distance, puis la suivit, longeant lui aussi la ligne d'ombre. La messagère, vêtue et voilée de gris comme une femme du commun, entra dans la rue étroite qui suivait le mur latéral d'enceinte et s'arrêta à la petite poterne dont elle poussa la massive porte, non fermée intérieurement. Puis, après un prudent coup d'œil autour d'elle, elle entra et disparut dans l'intérieur, laissant derrière elle lui entrebâillé. Amman, rasant la muraille, se faufila sur ses pas. La porte élargit légèrement et rapidement son ouverture sur sa prompte entrée, puis se referma derrière lui. Ce ne fut pas sans une forte émotion que le jeune marchand se retrouva dans cette cour de mosaïque, où il avait couru déjà un terrible danger et où il en risquait cette nuit un non moins terrible, si quelque œil indiscret se rencontrait sur son chemin. Posant un doigt sur ses lèvres pour lui prescrire le silence, la vieille le prit par la main et l'entraîna dans l'ombre vers une galerie latérale qu'ils suivirent d'un pas furtif. L'ombre y était opaque et le silence total. Si cette partie du palais était habitée, elle était du moins plongée dans un complet sommeil. Amman supputa que ce devait être là les locaux d'habitation des servants du harem. Là-bas, au bout de cette galerie sombre, brillait la clarté d'une lampe suspendue par ses chaînettes d'argent à la voûte d'une arcade. À la lueur de cette lampe, Amman distingua une haute grille dorée, comme celle qu'il avait vue l'autre jour, séparant le jardin de la cour en mosaïque des autres jardins du harem. Ayant atteint cette grille, la vieille, passant un bras entre deux barreaux, ouvrit, avec une clé qu'elle avait sur elle, la porte de cette grille en faisant jouer une serrure intérieure. Puis cette porte refermée avec précaution, elle quitta la galerie et entraîna Amman dans les jardins intérieurs. Là, à travers les allées sombres bordées de hauts massifs, ils contournèrent une aile des bâtiments et arrivèrent au bas d'une fenêtre ouverte dans une galerie du premier étage. Au pied de cette fenêtre, la vieille désigna à Amman une colonne d'arcade dont les ciselures en relief rendaient l'escalade facile. « Aide-toi, bel amoureux, et le ciel t'aidera, » lui souffla-t-elle en souriant. « Moi, je vais t'attendre dans cette serre. Quand tu repartiras, avant le lever du jour, viens me retrouver là. Je te ferai ressortir par la porte du jardinier. Mais, s'inquiète Aman, une fois là-haut. Ne t'inquiète de rien. Des bras amoureux t'attendent, sourit la vieille. Que le ciel te bénisse, exulta Aman en lui mettant dans la main une poignée de perles. Cédant des saillies, il atteignit la fenêtre ouverte et en franchit l'appui, se trouvant dans une galerie obscure. Dans cette obscurité, il discerna une forme blanche. Il fit un pas vers elle. Sa main rencontra une main douce et tiède. Il manqua défaillir. « Mon adoré !» balbutia-t-il. « Chut !» Comme pour étouffer ses paroles, deux lèvres parfumées se posèrent sur les siennes, amoureuses, brûlantes, puis s'arrachant doucement à ce baiser divin. « Viens !» murmurèrent-elles tout bas. Guidée par un bras frais et délicieusement satiné à travers l'ombre opaque, marchant à pas de loup sur un épais tapis, Aman entendit une porte s'ouvrir doucement, puis se refermer derrière lui au verrou. Il marcha en aveugle sur d'autres tapis. Des parfums légers flottaient en ce lieu, des parfums doucement grisants. Il sentait près du sien un jeune corps tiède et souple. Une portière se souleva devant lui. Et Aman se trouva dans une chambre d'un luxe royal, seulement éclairée par trois bougies faites d'aloès et d'ambre qui épandaient une senteur de rêve. D'abord, un peu ébloui par cette lumière, cependant atténuée, il le fut tout à fait en tournant les yeux vers sa conductrice. Déjà deux fois, il avait pu voir furtivement son visage qui avait embrasé son cœur et ses sens, mais vu ainsi, de tout près, entièrement dévoilée des cheveux à la gorge, elle était cent fois plus belle, belle à égarer la raison. Son sourire, qu'il ne connaissait pas encore, semblait un rayon du ciel, et son regard avait un scintillement d'astre. Aman la contemplait avec une muette émotion, qui faisait trembler sa lèvre et voilait son regard. Il la contemplait avec extase, avec enivrement. Comme devant une idole, il se laissa glisser à ses genoux, qui l'enlaça, prosterné devant elle. « Es-tu, balbutia-t-il en levant avec adoration ses yeux vers elle, une vision céleste ou une femme ?» Elle se pencha amoureusement vers lui, et avec un sourire d'une grâce adorable, « Une femme !» dit-elle en hochant doucement la tête. « Je t'en donne la preuve, ô mon élu, en t'appelant vers moi. » Elle prit ses joues dans ses mains douces et parfumées et le relevant. « Viens, » invita-t-elle en l'entraînant vers un divan chargé de splendides coussins de perse. « Viens près de moi. Viens t'asseoir à mes pieds. Et la tête sur mes genoux, dis-moi ton amour, qu'il me sera infiniment doux d'entendre trembler sur ta lèvre. Ou plutôt non, c'est inutile. Je sais que tu m'aimes. Je l'ai lu dans tes yeux. » Quand tu étais un jour, derrière la grille du jardin, et que tu me regardais. Oui, tes yeux me parlaient. J'ai vu ton amour. Il a pénétré dans mon être avec ton regard, et j'ai voulu que tu viennes vers moi. Il l'écoutait avec enivrement, levant vers elle son regard éperdu et ses lèvres où montait son âme en un sanglot de passion. Elle pencha vers lui ses yeux et ses lèvres. Un même vertige d'amour les enlaça, et ce fut la sublime extase des sens, où tout sombre, où tout s'annihile dans un transport divin, où le reste du monde s'abolit, où tout s'oublie dans un commun ravissement. L'heure passait. Les bougies d'aloès et d'ambre achevaient de se consumer dans les flambeaux de vermeil, quand soudain, des pas se firent entendre dans la galerie et un bruit de voix. Dans le désordre des coussins, la sultane se dressa subitement, l'oreille en éveil. « Écoute, » murmura-t-elle. Dans la clarté des cires, Aman voyait blanchir ses joues. Dans son ivresse, il n'avait pas encore perçu ces bruits qui avaient été entendus par l'oreille familière de sa compagne. Qu'est-il donc ? S'enquit-il soudainement troublé. Elle lui saisit nerveusement le poignet et se penchant vers son visage dans un souffle d'angoisse. « Nous sommes perdus, » murmura-t-elle. Aman se dressa en pâlissant. « Écoute, on nous a trahis. » Des chocs impérieux venaient de résonner contre la porte fermée. Par une petite porte de service, une jeune esclave noire, fille de confiance, fit irruption dans la chambre, plus morte que vive. « Qu'est-ce, Fatouma ? » demanda la sultane en rajustant hâtivement ses voiles. « Ah, rayon de clarté !» hoqueta la servante, en levant à ses épaules ses mains tremblantes d'effroi. « Eh bien, qu'est-ce, le calife ?»« Allah ! » fit le jeune marchand dans un haut-corps. « Fuis !» murmura la sultane. Déjà, Aman était sur pied, prête à sauter par la fenêtre ou à s'enfuir dans le premier coffre venu. La jeune esclave l'entraîna, rajustant sa ceinture et son turban par une porte dérobée, le guidant à travers un couloir sombre vers une seconde porte de service qui donnait sur la galerie extérieure près de la fenêtre ouverte sur les jardins. Déjà, dans les appartements de la sultane, s'élevait une voix impérative et courroucée. « Par le miséricordieux, hâtons-nous » trémula dans sa gorge la petite esclave. « Nos têtes vont tomber, hâtons-nous » Comme elle venait d'ouvrir prestement, et avec le moins de bruit possible cette porte, elle recula soudain, en étouffant un cri d'effroi. Devant cette petite porte de service, seul espoir de salut était un eunuque, le cimeter au poing. Aman, prestement et sans bruit, avait fait une glissade en arrière, dans l'ombre opaque du couloir, cherchant une autre issue. Elle faisait hélas défaut. Ce couloir était sans fenêtre, Aman était prisonnier de ses deux cloisons. Il n'y avait que deux exodes possibles. Celui de la galerie était gardé par un cimeter qui aurait fait voler sa tête sans autre forme de procès. L'autre était non moins terrible. C'était celui des appartements où tenait la voix impérieuse, aussi dangereuse pour le pauvre cou d'Aman que la lame brutale de cet escogriffe. Terrible chose que cette angoissante minute d'immobilité dans les ténèbres tragiques de ce couloir. Cependant, la petite esclave, essayant de payer d'audace, parlementait avec l'eunuque. « Qu'a-t-il donc ? » fit-elle en feignant l'étonnement. « Que désires-tu, maître ?» Impossible et effrayant, l'homme au cimeter se borna à secouer son turban. « Rentre, » intima-t-il à la petite servante, « et laisse cette porte fermée sous peine de mort. » La petite esclave, plus morte que vive, ne se fit pas répéter l'ordre comminatoire. La porte fut refermée instantanément. La situation était très claire pour le malheureux Aman. Cette issue était bloquée, et de l'autre côté il distinguait des allées venues qui n'annonçaient rien de bon pour lui. On fouillait les diverses pièces de l'appartement. Dans un tout petit instant, on allait venir lui tomber sur le turban, et sa vie ne vaudrait pas un soupir de flûte. Ah, il était fameux, le petit talisman de corail qui préserve du mauvais sort. Déjà les flambeaux apparaissaient à l'extrémité du couloir, et leur lueur faisait désagréablement scintiller des lames de sabre. Mektoub. Tout est dans la main d'Allah, maître de nos destinées. La vie qu'il nous a donnée, il nous la reprend quand il veut et comme il veut. La pensée d'Aman alla avec désespoir à la jeune et belle sultane. Hélas, elle lui avait donné une heure de paradis et allait la payer de sa vie. Leur amour avait été comme celui des beaux papillons. Ils s'aiment et meurent dans la même heure. Des clameurs féroces s'élevèrent soudain. La clarté des flambeaux était venue jusqu'à l'endroit où était le jeune marchand. Des poignes d'eunuques s'emparèrent de lui, l'entraînèrent. Il se retrouva au milieu des vociférations, dans cette belle chambre d'amour où il avait goûté des heures paradisiaques. Ça allait changer. Dans cette chambre se trouvait un homme omnipotent et sans pitié, le calife. Celui qui se faisait appeler l'ombre de Dieu. Si Dieu n'inspirait pas à son ombre une petite bribe de clémence, c'en était fait. La petite bribe de clémence ne vint pas. Le chef des croyants, la lumière du monde, tenait, écumant de fureur, la jeune sultane par le poignet. « Regarde, chienne immonde !» vociférait-il. « Avant de mourir toi-même, regarde mourir celui qui était dans tes bras. » Aman fut jeté à genoux sur le tapis et saisi par le turban. Une lame fulgura au-dessus de sa nuque. Malgré sa résignation à son sort, Aman, en voyant fulgurer cette lame, en sentant sur sa tête la main de l'exécuteur, eut un violent sursaut. Et se retrouva, les yeux écarquillés, sur la plage d'Alexandrie où venait de le réveiller un des chameliers en posant avec rudesse sa main sur son turban. Aman regarda autour de lui d'un air hébété. L'autre se mit à rire. « Eh bien, seigneur Aman, eh bien, le soleil est déjà haut, il est temps de se mettre en route pour Bagdad. » « Pour Bagdad, sans doute. Les chameaux sont déjà prêts, on vous attend. Fort heureusement que j'ai eu la bonne idée, ne vous trouvant pas, de vous chercher ici où vous étiez hier soir. » Ainsi donc, ce n'était qu'un rêve. Brrr. Aman en exhala un soupir d'allègement. L'œil encore ébloui par le vif rayon de soleil qui avait tout à l'heure frappé sa paupière encore fermée et qu'il avait certainement pris pour l'éclat fulgurant d'un cimeter. Ce n'était qu'un rêve. Aman exhala un autre soupir. Il songeait à la belle sultane amoureuse. Ce rêve, devait-il le regretter? Que trouverait-il dans la réalité? Mektoub. Après des semaines et des semaines de route à travers des déserts arides, puis des contrées tout à fait nouvelles, puis d'autres déserts arides, la caravane arriva un matin en vue de la grande ville de Bagdad. On en franchit les portes peu avant le milieu du jour. Aman s'informa aussitôt de son oncle, but principal de son long voyage. On lui apprit qu'il était mort. Réduit à ses maigres ressources, Aman se fit porteur d'eau. Ayant longuement peiné, il parvint sur ses pauvres économies à acheter un âne et déambula de longues années dans les rues de Bagdad, vendant des figues, des amandes et des oranges. Puis, il loua une échoppe de savetier et acheva sa vie à réparer de vieilles chaussures. Parfois, il pensait à son rêve et se prenait à le regretter. Les rêves sont souvent plus jolis que les réalités. Ainsi s'achève La Sultane amoureuse par Gustave Gaillard.